Bonsoir, trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. D'abord, ouverture ce samedi à Kinshasa de la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. Ensuite, clôture depuis lundi dernier en RDC du concours de recrutement des nouveaux magistrats civils et militaires. Et enfin, réforme de la police nationale congolaise avec le lancement depuis lundi dernier de toute l'étendue de la RDC de la campagne de sensibilisation sur le recensement biométrique des policiers. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Benoît Cambéré, il est rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs, c'est un journal paraissant à Kinshasa et distribué à l'est du pays et dans le pays limitrophe de la RDC. Albert Mapolo, il est journaliste de la radio catholique Tomisa de Kikwito Bandundu. Et Mangenda Chibangu Machi, il est rédacteur en chef adjoint de l'agence congolaise de presse ATP en sigle et collaborateur au journal Le Potentiel. Ouverture de la 14e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, concours de recrutement des magistrats ainsi que le lancement de la campagne des sensibilisations sur les recensements biométriques des policiers constituent les sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine. Comment les différents journaux ont traité ces sujets? Les détails dans cette revue de presse que nous présente Kéline Coutier.
Bonsoir, commençons notre journal de journaux par le 14e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Sommet de la CEAC, Dos Santos ne sera pas présent à Kinshasa, titre l'observateur. Compte tenu de son agenda très chargé ces derniers temps, renseigne des sources diplomatiques, le président angolais ne fera pas le déplacement sur Kinshasa. Cependant, une grande délégation angolaise prendra part à ses assises. Le 14e sommet de la CEAC se tiendra ce samedi à Kinshasa, invite la tempête de tropique, sommet auquel ne participe pas le président Eduardo Dos Santos de l'Angola. L'Angola avait déjà brillé par son absence au sommet de la SADC à Kinshasa, rappelle l'avenir, qui observe que tout comme le faisait le Rwanda à l'époque, Rwanda suit les forums où il peut avoir l'occasion de poser publiquement sans problème. Dans le chapitre judiciaire, le concours des recrutements des nouveaux magistrats civils et militaires a aussi fait l'objet d'actualité cette semaine. Gare à la corruption et aux pressions politiques, titre la référence plus, faisant allusion au recrutement des magistrats civils et militaires. Le ministre de la Justice, Luzolo Lubambi, souligne le journal, rassure et affirme que le gouvernement veille à la transparence de ce concours, tout en mettant en garde les récipiendaires contre la tricherie et la corruption au risque de se retrouver en prison dans le cadre de la tolérance zéro. De son côté, Ourou parle de la fin du concours des recrutements des magistrats civils et militaires en RDC, en faisant remarquer que 13 000 ont couru pour 1000 postes seulement. Pour le journal, nombreux sont appelés, mais peu seront élus. Et au journal de conclure que face aux plaintes sur le nombre insuffisant des magistrats au Congo, le ministre en charge de la justice a promis que d'autres sessions de recrutement seront organisées dans l'avenir. Mais pour l'instant, le gouvernement ne fait que la politique de ses moyens. C'est la fin de ce journal de journaux et merci de votre attention.
Merci Kéline Coutier pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Mangenda Chibangu Machi, vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'agence congolaise de presse. Et comment appréciez-vous le traitement que la presse a fait de l'actualité cette semaine?
Bon, écoutez, la presse, c'est, si vous voulez, l'œil et l'oreille de la population. Je crois que ce qui s'est dit dans la presse, c'est effectivement ce que la plupart l'opinion publique dit. S'agissant, par exemple, du recrutement des magistrats, tout le monde est d'avis que c'est une très bonne démarche, on va engager, mais le problème ne se situe pas seulement à ce niveau-là. On a mis à la retraite 160 magistrats, on va en engager 500. Mais pour les payer, quoi?
Oui, je rappelle que c'est juste un petit commentaire hein, avant d'entrer dans le détail. Hein. Albert Mapolo, vous êtes journaliste à la radio catholique Tomisa de Kikwito Bandundu. À Kikwito, vous trouvez l'actualité qui a dominé cette semaine, c'est laquelle?
Cette semaine, à Kikwito, je pense que c'est la campagne de lutte contre le surchargement des véhicules lancée par le commandant bataillon PCR de Bandundu, le major Junior Ngumbu, et qui estime qu'il faudrait réduire un peu, de plus en plus, selon les instructions reçues de son hiérarchie, les cas des accidents mortels sur la nationale numéro 1, et cela devait passer par éduquer les chargeurs des véhicules et les propriétaires des engins pour les tonnages des véhicules, mais aussi des parts et d'autres. Et ici, vous savez, avec on s'approche des périodes de on crie aux voleurs à chaque coin et on emporte des biens de certains citoyens.
Oui, Benoît Caméré, vous êtes rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs. C'est un journal paraissant à Kinshasa et distribué à l'est du pays, dans le pays limitrophe de la RDC. Votre appréciation par rapport au traitement que la presse a fait de l'actualité cette semaine?
Ben, c'est juste un traitement bon, tout à fait sectoriel. Hein. On ne pouvait pas tout élaguer, mais il me semble que l'actualité cette semaine a été aussi focalisée par ce ping-pong, cette affaire des mandataires de l'OGFM qui ont été mis en prison et qui ont été élargis par des juges qui en ont eu pour leur compte après.
Oui, on va en parler dans cette émission. Merci. Avant d'aborder les thèmes retenus pour ce soir, nous allons commenter cette actualité qui provient de la province orientale. Comme vous le savez, le vice-gouverneur de cette province a démissionné de son poste hier jeudi soir. Dans une déclaration publiée ce matin par la radio-télévision nationale congolaise, Joseph Bandakia justifie son acte par des raisons d'éthique pour, dit-il, ne pas souiller son honneur. Pour rappel, une motion de défiance contre Joseph Bandakia a été déposée depuis mercredi dernier au bureau de l'Assemblée provinciale. C'est après sa réplique au terme de l'interpellation d'un député provincial. Ce dernier lui reprochait d'avoir détourné des deniers publics dans une affaire d'achat d'engins au profit du gouvernement provincial. Benoît Caméré, n'est-ce pas un événement, ça n'arrive pas tous les jours qu'une autorité déférente démissionne, surtout pendant cette législature?
Bien sûr, effectivement, depuis un moment, on a entendu, on a vu les assemblées provinciales en ébullition, n'est-ce pas? On a vu les gouvernements provinciaux également secoués. Mais ça, c'est une première en ce qui concerne le vice-gouverneur de la province orientale qui, pour des raisons d'éthique, dit-il, il a rendu le tablier pour ne pas se souiller dans cette sorte de guéguerre des basses politiques qui est en train de se dérouler dans les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Je crois que c'est une première en ce qui concerne les gouvernements provinciaux dans notre pays.
Et vous pensez que c'est une bonne décision?
C'est une décision tout de même. Il a pris sa décision en âme et conscience d'après les informations que j'ai. Et je pense que, bon, il y en a qui parlent de fuite en avant. Moi, je ne le dirai pas, mais bon, voilà, il a démissionné. Beaucoup ne le font pas. Pourtant, il serait enclin à le faire avec beaucoup de choses qui sont reprochées à beaucoup d'entre eux.
Manuela Kibangu, avez-vous été surpris par cette démission?
Tout à fait, j'ai été surpris parce que ce sont des choses qui arrivent rarement, mais j'estime que le vice-gouverneur aurait dû démissionner immédiatement après que le dossier ait été traité. S'il avait démissionné sans qu'il ait été concerné par le dossier, ça se comprendrait. Mais étant donné qu'il est impliqué dans un dossier, que les autres disent ça, il aurait pu rester au pouvoir, continuer à se battre, donner les preuves qu'il n'y est pour rien, et une fois que les choses seront éclaircies, à ce moment-là, vous pouvez démissionner. Mais le faire avant qu'on ait clos les dossiers, je dirais, comme ce que mon ami vient de dire, je dirais que c'est une fuite en avant. Il n'aurait pas dû démissionner bien avant. Démissionner, c'est une bonne chose, c'est un acte de courage. Je l'accepte, je le félicite, hein, parce que ce sont des choses qui arrivent très rarement. Mais le faire avant qu'on ait clôturé le dossier, je crois que c'est une fuite en avant.
Albert Marfolo, votre réaction?
Les confrères ont tout dit. Moi, je pense qu'à la question d'interpellation sur une question de détournement, la réponse n'est pas la démission, c'est peut-être des justifications. Et puis, c'est quand même salutaire de trouver quelqu'un qui veut pas, comme lui-même en a dit, s'essuyer dans ce jeu, je peux appeler ça de chasse à l'homme qui s'est fait dans nos gouvernements provinciaux. Et nous ne savons même pas cette motion de défiance. Est-ce qu'on a apporté des preuves que réellement il avait détourné ça? Alors, si lui trouve qu'il a des preuves pour justifier, il aurait pu commencer par justifier ses preuves afin qu'il soit lavé, et en trouvant qu'il est lavé et qu'il a sa dignité, et en toute dignité, il pouvait quitter. Et lorsqu'on dit qu'il démissionne avant comme ça, c'est vrai qu'il peut avoir raison, mais pour certaines personnes, il n'a pas donné totalement le temps aux gens de comprendre sa raison et de vite croire aussi qu'il serait quelqu'un utile à qui on mettait des crocs en jambes. Donc, il est vite parti aux besognes. Mais comme il en a fait, comme l'a dit le doyen Mangenda en âme et conscience, c'est recevable. Mais que la justice continue son travail, bien sûr, même quand il a démissionné, mais qu'il se présente pour montrer les preuves de son innocence et comme ça, il est quitte de l'affaire définitivement.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. Ouverture ce samedi à Kinshasa de la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, des matières telles que les conséquences de la crise financière internationale sur la région et les changements climatiques figurent dans l'agenda de cette rencontre sous-régionale, mais aussi le développement des infrastructures routières et énergétiques. Pour atteindre cet objectif, il faut la contribution financière des États membres, mais il s'avère que la plupart ont des difficultés à s'acquitter de leurs obligations. À ce sujet, le ministre congolais de la coopération internationale et président du conseil des ministres de la CEAC appelle ses pairs à se prendre en charge. Raymond Tshibanda est au micro de José Deschartes Menga.
La plupart des pays étant confrontés à des problèmes internes, surtout avec la situation financière et économique mondiale qui a fortement pesé sur nos économies et qui a pesé et qui pèse sur les finances publiques de nos pays respectifs, il est relativement difficile pour beaucoup de pays de s'acquitter régulièrement de leurs cotisations. Nous insistons pour que cela soit fait parce qu'une organisation qui n'a pas les ressources pour sa politique ne peut pas mettre en œuvre le projet qu'il a choisi. Mais dans la mesure où nous sommes en train de nous organiser, commençons à donner une image de plus grande crédibilité, nous sentons du côté de nos partenaires, une réponse de plus en plus positive qui doit bien entendu être soutenue par nos propres contributions parce que la responsabilité de développer notre sous-région incombe d'abord à nos États.
Benoît Kamere, qu'est-ce que les nations de cette sous-région de l'Afrique centrale peuvent attendre de cette réunion des chefs d'État et des gouvernements?
Beaucoup de choses et pas grand-chose malheureusement. On a déjà assisté à plusieurs messes de ce genre. C'est vrai, les chefs d'État se rencontrent, les ministres se rencontrent avant, on signe des communiqués conjoints, mais c'est suivi de quoi? C'est l'après-session qu'on se pose des questions. Pour parler de la présente session, la 14e session de la CEAC, n'est-ce pas? Il y a des problèmes, c'est vrai, après la crise monétaire internationale, le problème de développement des infrastructures routières et industrielles. C'est vrai, dans chaque pays, il y a une partie des infrastructures qui devraient servir à toute la sous-région. Est-ce que chaque pays a donné sa part de contribution? On parle également des arriérés dans les participations des pays au budget de la CEAC, en ce qui concerne cette session notamment. Mais malheureusement, il y a des problèmes particuliers.
Comme quoi, par exemple?
Pour ne parler que de l'actualité, l'Angola, qui est en même temps membre de la SADC, qui est en même temps membre de la CEAC, avec la République démocratique du Congo, qui porte pour l'instant la double casquette de président de la CEAC et de la présidente de la SADC, ce serait une occasion où les chefs de l'État se retrouveraient et parleraient peut-être des problèmes qu'il y a. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas seulement un problème de refoulement de ressortissants d'un pays dans l'autre pays, mais on a l'impression qu'il y a d'autres problèmes. Ce serait l'occasion d'en parler. Tu l'as dit tout à l'heure, et notre ami Kéline Kouté l'a dit dans la revue de presse, on remarque que le président, comme par hasard, le président angolais sera encore une fois absent, comme il a été absent, n'est-ce pas, son agenda, paraît-il, ne correspondait pas lors du sommet de la SADC, et son agenda ne le permet pas non plus. Lors de ce sommet, on peut se poser des questions, mais ce serait une occasion entre chefs d'État de parler franchement et de crever l'abcès s'il y a lieu de crever. Alors on peut se poser la question de savoir à quoi servent toutes ces grandes messes si on ne peut pas régler les problèmes entre nous et aller de l'avant pour le développement de l'Afrique.
Oui, Mangenda Tshibangu-Matshi, parce que le Nord Cambéra a évoqué l'Angola, ne pensez-vous pas que ce sommet va constituer une occasion pour pouvoir débattre de certaines questions, notamment cette question qui est liée aux expulsions des populations entre la RDC et l'Angola?
Non, je ne pense pas parce que, il ne faut pas confondre, les expulsions concernent l'Angola et la RDC.
Qui sont tous des membres de la CEAC.
Qui sont tous non seulement membres de la CEAC, mais également membres de la SADC. Je dis non, pourquoi ? Parce que je crois que le sommet, le 14e sommet, a un calendrier qui a été élaboré bien avant et qui fait suite au 14e sommet. Lors du 13e sommet, il y avait un certain nombre de sujets qui avaient été discutés et sur lesquels on devait soit revenir sur le cas des infrastructures. Il y avait également, lors de la 13e session, il y avait également des discussions autour de sujets comme la paix et la sécurité. Et il y avait également la question de constituer une caisse communautaire d'intégration. Je crois que ce sommet devrait avoir, depuis le 13e sommet jusqu'à ce 14e, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Si des problèmes comme celui des expulsions devaient être traités, ce serait peut-être comme des annexes, mais ça ne devrait pas faire partie, à mon avis, de l'actuelle session. À moins que soit la RDC, soit l'Angola aient saisi le secrétariat exécutif de la CEDEAC pour que ce sujet puisse figurer à l'ordre du jour du sommet. Si cela n'a pas été fait, je ne pense pas.
Albert Mapolo, quelles sont les dispositions que ces États pourraient mettre en place pour appliquer les résolutions issues de ces assises, lorsqu'on sait déjà que certains d'entre eux n'arrivent pas à s'acquitter de leurs obligations?
Moi, je pense, la question, on vient de la soulever tout à l'heure, ça c'est la 30e fois qu'ils se réunissent, 14e semaine, le sommet plutôt. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait? C'est ce qu'ils devaient faire, les ventaires. Mais la question, et par rapport à ce que tu dis, c'est de comprendre pourquoi la crise nous atteint-elle. Parce qu'il y a une certaine désorganisation de nos économies. Donc, l'État, il y a certains États parmi ces États d'essayage qui ne maîtrisent pas les finances publiques. Il y en a des États qui engagent des dépenses vaines ou inutiles, des dépenses tout simplement pour se faire des loges ou la gloire, alors que normalement, tous ces pays ayant des économies fragiles, l'État devrait de plus en plus contenir les dépenses, jouer de leur prudence pour les dépenses qu'ils effectuent, les engagements, et renforcer leur production locale. Il faut une autopsie au sein de chaque État pour relancer le secteur de production et dégommer les engagements inutiles. Donc, ça devrait d'abord partir de chaque État qui étudierait son problème interne avant de poser le problème au niveau de la communauté. Mais au sein de la communauté, ils doivent développer les mécanismes d'échange et d'expérience avec les pays qui ont une économie stable, s'il y en a parmi eux. Au sein de la communauté également, ces pays doivent, à forte économie, devraient soutenir les pays faibles, mais alors, s'il y a lieu, ils pouvaient même envisager une politique monétaire commune, par exemple, la création d'une monnaie commune entre ces États. Mais aussi, ils doivent également, comme vous m'avez posé cette question, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est mon point de vue, ils doivent supprimer les barrières économiques entre eux, réduire le plus sensiblement les taxes en ce qui concerne les productions et favoriser les investissements. Comme ça, ils peuvent au moins arriver à créer des mécanismes de production, à faciliter la production interne et dans la sous-région et lutter contre cette crise qui vient nous frapper. Mais les chefs d'État de nos pays de la CEAC doivent aussi prendre une décision courageuse face aux Occidentaux ou aux investisseurs de l'Occident en rapport avec leurs implications économiques dans nos États. Donc ils arrivent avec leur cahier de charges, ils arrivent avec leurs agendas cachés parce que nous sommes appelés des pays parfois abusivement pauvres. Alors ils nous imposent leur système de commerce, ils nous imposent le pourcentage à obtenir, ils nous imposent le prix de leurs marchandises, leur monnaie, tout ce qu'ils veulent. Alors, curieusement, vous vous rendez compte que quand nous avons qu'une bouche ouverte et qu'il ne fait que recevoir sans mâcher, et nous ne pouvons arriver qu'à ce niveau-là.
Mais il y a quand même opportunité d'organiser ces genres de sommets.
Oui, il y a opportunité, c'est nécessaire, parce que c'est au cours de ces sommets que les gens peuvent régler leurs différences. Vous voyez, pour avoir une économie stable aussi, on devait de plus en plus réduire les conflits entre les pays de la sous-région, les pays, par exemple, de la SADC. Ils ont des problèmes entre eux. Mais ils ne doivent pas faire semblant de venir se retrouver discuter une question économique quand on sait que l'économie n'est stable là où il y a la paix, là où il y a la production, et là où il y a l'harmonie, et là où les gens savent se saluer sincèrement. Alors, aujourd'hui, vous avez vu par exemple le président angolais avec beaucoup de respect, Eduardo Santos, qui ne sera pas. Donc, vous pensez que ça va régler la question qui s'oppose sur le plan peut-être économique aussi entre les pays qui partagent les frontières avec l'Angola? Donc, et s'il sera représenté, tant mieux. Mais sa présence serait intéressante parce qu'il est le chef d'État qui a la voix délibérative de son État. À ce niveau-là, il pouvait prendre des décisions qui engagent le pays. Mais lorsqu'ils ne sont pas à mesure de se retrouver et se dire des choses sincèrement, de régler aussi leurs différences pour faciliter la paix et promouvoir leurs économies, comment vous voulez que les choses aillent de l'avant?
Merci, nous passons à notre deuxième thème ce soir. Clôture depuis lundi dernier en République démocratique du Congo du concours de recrutement des nouveaux magistrats civils et militaires. 13 000 candidats ont pris part à ces concours, mais seulement 1 000 seront embauchés par palier de 500 pour 2010 et 500 autres pour 2011. Ce concours est organisé par le Conseil supérieur de la magistrature sur fonds propres du gouvernement. Le ministre de la Justice, Luzolo Bambi, indique que le gouvernement veille à la transparence de ces concours. Il a mis en garde les récipiendaires contre la tricherie et la corruption au risque de se retrouver en prison dans le cadre de la tolérance zéro. On écoute le ministre de la Justice au micro de Jeff Ngoy.
Il faut relever la volonté du gouvernement de promouvoir une magistrature indépendante quant à la corruption. Cette opération s'inscrit dans le cadre de tolérance zéro. Un magistrat ne peut pas être indépendant s'il le devient par un concours où il a réussi par la fraude, par la corruption, par le favoritisme, par le tribalisme et par les recommandations politiques essentiellement. Et nous avons pris les dispositions pour que le concours se déroule normalement et le gouvernement veille sur ça. Nous embauchons 1 000 jeunes Congolais dans le cadre de la magistrature pour redresser leur pays car le dégât causé par les antivaleurs est énorme.
Qui a toujours été fidèle parmi les partenaires du gouvernement, n'a pas débloqué les moyens pour financer ce concours. Quelles sont les raisons du refus ou bien des réticences du PNUD?
Ici n'est pas le lieu de polémiquer. Il est important simplement de relever que les deux conseils supérieurs de la magistrature se sont tenus depuis 2006 sur fonds propres du gouvernement. Ce concours est organisé sur fonds propres du gouvernement. C'est à nous, Congolais, de nous prendre en charge.
Benoît Bamberé, votre réaction par rapport à ces concours?
Bon, d'abord, c'est un concours, un premier depuis plusieurs années. C'est la première fois que cela se passe déjà depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Ce concours s'est passé sur toute l'étendue de la République, le samedi, le lundi et le mardi, parce qu'il faut dire que dans la province de l'Équateur, cela ne s'est pas fait le même jour que les autres provinces, n'est-ce pas?
Oui.
Et bon, 13 000 candidats, on attend 1 000 reçus.
Oui. Bon, 500 pour 2010 et 500 autres pour 2011.
Voilà. Cela veut dire que, bon, c'est un effort qu'il faut saluer et même applaudir des deux mains. Bon, mais quant au reste, est-ce que 1 000 magistrats, 1 000 nouveaux magistrats avec l'étendue du pays, avec des coins du pays qui ont des juridictions mais qui n'ont pas de magistrats ou des coins du pays où il n'y a aucune infrastructure et que même les magistrats qu'on a permutés ne sont pas partis à cause justement du fait de manque d'infrastructure et de manque de motivation, cela c'est une autre paire de manches. C'est un effort qu'il faut certes saluer, c'est un effort qu'il faut accompagner, c'est très bien qu'on organise ce concours, mais il faut également que les moyens suivent. On sait que la réforme de la magistrature a été demandée depuis longtemps. Les magistrats attendent qu'ils aient un statut spécial et qu'ils aient également un traitement spécial, jusque-là qui n'est pas encore arrivé, mais c'est quand même un effort qu'on devrait applaudir et soutenir vivement que ça continue. Quant au reste, plus de clientélisme, pas de favoritisme, pas de attendant que les résultats sortent pour nous prononcer, parce que notre pays nous a habitués à ce genre de plus jamais ceci, plus jamais cela. Mais quand il faut regarder de plus près, on a vu les concours copyright, n'est-ce pas? On a vu également tas d'autres tests où on faisait le dur au début, mais à l'arrivée, c'était plus le clientélisme qui se faisait voir que autre chose, c'est ça.
Albert Mapolo, à Kikwit, où vous vous trouvez maintenant, est-ce qu'il y a eu engouement par rapport à ces concours?
Oui, il y a eu quand même engouement. Il y en a qui sont partis à Bandundu, mais je pouvais soulever un constat très amer. Les ressortissants, par exemple, des CIDEC, Université Ouverte, paraît-il, n'ont pas été associés. Alors, ils ont été alors qu'ils ont perdu leur transport d'ici chef-lieu de la province pour participer à ce concours, alors ils ont été repoussés et ils ne devaient pas passer ce concours. Mais comme le confrère venait de le dire, le concours était une bonne chose et surtout s'il faut mesurer les connaissances de ceux à qui on veut confier les responsabilités dans un domaine donné et surtout pour le cas précis de la justice qui s'était transformé en certains moments en gagne-pain des auxiliaires tiers de cette justice, aussi parce qu'il y avait un besoin cuisant de combler les effectifs à travers les juridictions du pays, et ce qui ne fonctionnait pas, il y a eu vraiment une nécessité de recruter les gens, et pour cela, on ne devait pas recruter n'importe qui. Mais l'inquiétude, comme venait de le dire Benoît Kambéré, qui plane, il y en a 13 000 participants, et on ne retiendrait que 1 000 par palier de 500. Peut-on vraiment croire que les 1 000, avec toutes les implications congolaises, seront vraiment les candidats brillants ou qui auront nécessairement réussi à ces tests? Toutefois, il faudrait faire confiance au comité organisateur, attendons les résultats. Mais aussi, le test, c'est bien, c'est très bon, mais il faudrait qu'on tienne compte, ça c'est ma suggestion, de l'équilibre des provinces dans la sélection des candidats à retenir pour éviter de trouver dans un corps de métier les personnes des mêmes provinces, des mêmes tribus, même origine. La peur est de tribaliser les institutions ou les services s'il n'y a pas vraiment un bon filtrage. Il ne faut plus qu'on tombe dans le piège de la justice propriété de telle province ou de la santé propriété de telle autre province ou de l'armée pour telle province. Donc le ministère doit tenir compte de cela, car même dans la mise en place qui vient de se faire, on a l'impression qu'il y a des tribunaux et des parquets qui sont essentiellement composés des ressortissants d'une seule province ou d'un seul coin.
Manena Kibangu Machi, certaines ONG comme l'ASADO craignent l'absence d'autres partenaires dans l'organisation de ces recrutements et ils disent que le fait que ces partenaires ne soient pas présents, cela ne puisse favoriser des cas de corruption et autres favoritismes. Et pensez-vous que ces craintes sont-elles fondées?
Je ne pense pas parce que, d'abord, j'ai l'impression que nous commençons, nous Congolais, à méfier de nos propres capacités. C'est comme si nous n'étions pas capables de quoi que ce soit. Moi, je pense que le fait que le gouvernement ait pensé à organiser un concours, c'est déjà une très bonne chose. Et je dirais même que c'est un début de lutte contre ce qu'on appelle couramment le clientélisme, parce que depuis de nombreuses années, les engagements dans l'administration, dans la plupart des entreprises congolaises, se faisaient soit par des connaissances, soit par les parents. Mais le fait qu'on ait instauré un système de concours pour choisir les meilleurs et aller vers l'excellence, et que cette initiative vienne de Congolais, je crois que c'est une très bonne chose. Voyons voir, comme les amis l'ont dit, quels seront les résultats. Est-ce que ce sera comme dans les autres concours? Dans ce cas-là, la présence des ONG aurait été nécessaire. Mais je ne pense pas que ce soit toujours que nous puissions nous appuyer sur des étrangers. Soyons capables de faire quelque chose, voyons ce que nous pouvons, de quoi nous pouvons être capables.
Restons dans la magistrature où, depuis hier jeudi, l'administrateur délégué général de l'Office de gestion des fret maritimes au GFREM en sigle Emile Ngoï, ainsi que l'administrateur directeur technique de l'OGFREM Roger Andende à Pindia ont été libérés. Cependant, les juges du tribunal des grandes instances de la Gombe, qui ont ordonné cette mise en liberté provisoire lundi dernier, reste en prison. Et Mangenda Chibangu Matiri, comment votre rédaction, l'ACP, a analysé cette affaire?
Vous savez qu'une agence donne toujours les faits bruts.
Voilà.
Et l'ACP s'est limité à dire qu'ils ont obtenu leur liberté provisoire. Et l'ACP s'est bourné à dire que les juges qui ont été à la base de leur liberté provisoire ont été arrêtés à cette limite-là. Mais si vous demandez mon point de vue personnel, je vous dirais que depuis l'arrestation jusqu'à la liberté provisoire, on dirait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce dossier. Ils ont été arrêtés, immédiatement envoyés à la prison de Makala. Sans être jugés, ils les voient dehors. Et les langues délient, les gens se fâchent. Pourquoi vous les avez fait libérer alors que les juges ont appliqué la loi? Qui a arrêté les juges? Pourquoi? Parce qu'ils ont libéré les mandataires. Mais d'abord, il fallait qu'on commence par juger les juges. Pourquoi on les a arrêtés? Non. Qui a donné l'ordre qu'on arrête les juges? Voilà pourquoi je dis qu'il y a Angoisse Roche. C'est qu'il y a des gens qui voulaient la tête de ces mandataires. Et parce qu'on les a fait sortir, ceux-là qui veulent leur tête n'ont pas été d'accord. Ils ne sont pas contents du tout. Ils ont dit, bon, nous allons montrer que nous sommes le pouvoir, nous allons montrer que nous sommes forts, nous voulons la tête de ces deux-là, et puisque vous les avez libérés, nous prenons d'abord la place. Donc c'est qu'il y a quelque chose de politique derrière, et ce n'est plus la justice. Or, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est qu'il y ait dans le pays la justice juste.
Albert Mafolo, cette affaire ne pose-t-elle pas la problématique de l'indépendance de la magistrature?
Exactement. Moi, je pense que c'était déjà tout dit. Vous savez, la question est de savoir qu'est-ce qu'on reproche à ces juges qu'on a arrêtés. pour avoir fait leur travail? Est-ce que parce qu'ils ont lâché la poix qui cherche la tête de qui? C'est ça la grande question. Mais il est dit aussi clairement par la loi que l'inculpé, lorsque il n'est pas encore déclaré coupable, aucune peine ne peut être infligée à sa personne. Voilà, on invite les gens, on les entend, on le fout en prison. Alors, ils ont droit à une liberté provisoire. Et aujourd'hui, cette liberté provisoire n'annule pas la procédure judiciaire, c'est-à-dire n'annule pas la poursuite du dossier par la justice. Donc, ils ont fait leur travail, il est aussi constitué, il est aussi réglementé que quiconque veut obtenir une mise en liberté provisoire par rapport à son problème, s'il est arrêté de manière illégale, donc il devait aussi payer une caution. Donc, ils ont payé leur caution, l'avocat a parlé de 5 000 $ chacun, ils sont mis en liberté en rapport avec cette caution, et peu importe si c'est entré dans le trésor public à la DGRAD ou pas, est-ce que c'est entré, c'est pas entré, c'est aller dans les postes, ça c'est pas notre affaire, mais au moins ils ont pu faire ce qu'il faudrait faire pour obtenir cette liberté provisoire. Ils sont libres maintenant, ils n'ont pas été suspendus, ils devraient en principe aussi reprendre leur travail, je ne sais pas s'ils ont repris, mais les juges, qu'est-ce qu'ils ont fait? En quoi les juges sont coupables dans cette affaire? On ne nous démontre pas cela. Et de plus, on vient de lancer un recrutement des juges et des magistrats à travers le pays. Mais si c'est pour toujours les torturer, c'est pour toujours ne pas les laisser libres pour faire loyalement leur travail, c'est pourquoi on a lancé un recrutement. Pourquoi?
Oui, Benoît Caméré, quelle leçon peut-on tirer de cette affaire?
Que la liberté de la magistrature, n'est-ce pas, a encore ses beaux jours devant elle, n'est-ce pas, si je peux ainsi m'exprimer. Parce que il y a quelque chose dans notre pays qui est étonnant. Ici, quand quelqu'un a affaire avec la justice, on dirait que la règle, c'est d'abord qu'on l'arrête. Non! Quelqu'un peut comparaître en citoyen libre. L'exception, c'est être en prison. On peut venir, se lever le matin, aller à son bureau, à 10 heures, aller répondre devant un juge. Et dès que la procédure suive son cours. Pourquoi dans notre pays, les méthodes sont celles-là? Il y a soupçon, on n'est même pas encore inculpé. Première chose, on vous cueille, on vous amène à Kilimanjaro. Après, deux jours après, on vous amène à Makala. Vous n'avez même pas encore comparu. C'est seulement après qu'on commence à dire, non, venez, et quel est votre problème, et tout. Entre-temps, vous êtes en train de purger une peine à Makala. Ça ne se passe pas comme ça. Et les juges, quelle est la liberté de manœuvre d'un juge? Il donne un verdict selon la loi. Et telle personne nous dit que il est tout à fait disposé à venir nous écouter, à venir comparaître devant nous, mais il préfère avoir la liberté provisoire. Et payer la caution, rentre chez elle. Quelle est la faute que ces juges ont commise pour se retrouver aujourd'hui au Nouf? Et quelle est encore une fois la dignité du juge devant ses administrés? Lui qui coffre les gens, celui qui a décidé de la liberté provisoire de quelqu'un, se retrouve en prison. Même peut-être à la risée des autres prisonniers. Mais quelque part, on est en train de poignarder notre magistrature. Et je me demande dans quel état d'esprit ceux qui ont passé le concours vont se mettre, et ceux qui seront recrutés se disent, ah, demain, dès que je dis le droit, c'est fini, je me mets en ouf après, et des choses comme ça. Il faut faire très très attention pour la dignité, pour l'honneur de notre magistrature. Il faudrait que ce genre de pratiques cessent. Et que le pouvoir judiciaire soit un pouvoir fort et que les autres pouvoirs aident ce pouvoir à se raffermir davantage.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. Réforme de la police nationale congolaise avec le lancement depuis lundi dernier sur toute l'étendue de la RDC de la campagne de sensibilisation sur le recensement biométrique des policiers. L'opération qui a commencé par la ville de Kinshasa va durer 6 mois. Objectif, collecter des données de tous les policiers en vue de créer une base de données qualitative et quantitative de ses ressources humaines et aussi aussi permettre une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Écoutez les explications du chargé de la sensibilisation et du recensement biométrique de la police, le général Sabiti, au micro de Kéline Couté.
Cette opération va avoir du se dans le cadre de la réforme de la police. Alors, la réforme de la police est faite dans tous les domaines, dans les domaines des infrastructures, dans les domaines logistiques, dans les domaines légaux, avec une loi qui a été transmise au Parlement. Et dans ce cadre-là, il y a eu la réforme aussi dans le secteur de gestion des ressources humaines de la police. Et le premier jalon, la première action qui est entreprise, c'est l'identification des policiers. Avant d'aborder d'autres secteurs de la réforme, on a d'abord cherché à connaître qui sont les policiers, où sont-ils et quel est leur profil. C'est pourquoi on a commencé par cette opération d'identification des policiers avant d'entamer d'autres secteurs de la réforme de la police.
Mangenda Kibangu, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'Agence congolaise de presse. Et pourquoi, à votre avis, cette opération démarre en ce moment?
Bien. Je crois que le problème qui se pose à la police, c'est le même problème qui se pose dans l'administration, dans d'autres administrations comme l'administration publique. On n'arrive pas à cerner combien d'effectifs nous avons, ni à la police, ni à l'armée, encore peut-être encore dans le secteur de l'enseignement. Je pense ici qu'avec ce recensement biométrique, l'administration policière sera en mesure de cerner combien d'effectifs elle dispose et combien effectivement elle paye et combien elle doit utiliser. Je crois que par ce recensement, c'est une bonne démarche.
Et vous pensez que l'amélioration des conditions de travail des policiers pourra suivre?
Là, c'est un autre problème. Là, c'est une autre paire de manches parce que l'amélioration des conditions policières peut être versée dans le même panier que dans celui de l'amélioration des conditions de tous les autres travailleurs, agents qui dépendent du budget de l'État. Cela demande également un plan. Je ne sais pas si nos dirigeants actuels y pensent. Si aujourd'hui les policiers s'adonnent au renseignement, ça donne à des tracasseries, c'est justement parce qu'ils n'ont pas de bonnes conditions. Est-ce que, comme le confrère l'a dit tout à l'heure, il semble qu'on a commencé par les débuts, ça va d'abord qui sont les policiers, combien sont-ils, et comment alors faudra-t-il améliorer leurs conditions de vie? Bon, j'espère personnellement que l'amélioration des conditions de vie, ce sera une deuxième étape, qu'après avoir recensé tous les policiers, connaissant leur nombre, on peut dire, nous pouvons mettre autant à la retraite, autant à tel emploi et pour le reste, mais pour le reste, c'est une bonne chose.
Albert Mafolo, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio catholique Tomisa de Kikwit au Bandundu. Et avec cette démarche, peut-on espérer améliorer l'image du policier congolais?
Quand il y a une volonté, bien sûr, vous savez, c'est quand même honteux qu'un État ne puisse pas maîtriser les effectifs de ses hommes de troupes. Mais cette réforme, je suis d'avis avec mon confrère qui vient de parler tout à l'heure, mais séparer les choses, je ne suis pas d'avis. Mais cette réforme ne doit pas se limiter au seul niveau de la maîtrise des effectifs qualitatifs et quantitatifs. Il faudrait accompagner cette réforme, comme dit dernièrement, à l'amélioration du social du policier, de ses conditions de travail, de ses capacités d'intervention sur le terrain. Il faudra réfléchir sur la véritable mission de la police. Parce que jusque-là, nous avons l'impression que la police ne se considère pas comme un corps de métier constitué au sein de la population pour la défense et la protection de cette dernière. Et vous savez, cette réforme doit envisager aussi le recyclage des policiers pour qu'à la fin, on ait une police disciplinaire, de proximité et toujours au chevet de la population. Une police qui vit réellement du solde. Ce n'est pas une police qui est dans des coins des rues la nuit, le jour pour tracasser la population. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des policiers qui vivent de la mendicité dans les quartiers. Ce n'est pas digne pour un corps de métier porteur des couleurs nationales de qui la paix et la sécurité des citoyens dans un État en dépend. Donc, vous voyez, cette réforme, nous la voulons, qui parle de qualitative, peut-être il faut savoir qui a fait quel est le policier, à quel niveau d'études, il a quelle formation, il vient de composition, parce que nous avons utilisé tout le monde, il y a eu brassage, intégration, démobilisation ou réinsertion, ce n'est pas à vous qu'on va rappeler tout cela, ou à nos auditeurs, parce qu'ils sont congolais, même de l'étranger, ils suivent l'actualité, donc
on a utilisé tous les mots. On se retrouve en face de plusieurs personnes venues de chaque rang, et puis même ceux qui ont quitté l'armée pour s'ingérer dans la police, tout ça. Donc, à ce niveau-là, on doit voir comment comprendre qui a fait quoi, qui a quel niveau, et qui fait quoi, et qui est installé où, et vit comment. Donc, du temps où on aura maîtrisé les effectifs de la police, qu'on saura qui est quoi, qui à quel niveau, on saura organiser des mises à niveau de ces hommes de troupes capables de sécuriser la population et leurs biens. Du temps où on aura arrangé le social des policiers, ses conditions d'intervention sur le terrain, on arrivera à une pointe qui arrive même à un léger retard, mais à temps réel lorsqu'il y a une nécessité d'intervention de sa part. Et on aura un policier qui vit de son salaire, de son solde. Alors là, ça sera très bien et le policier ne pourra pas être ce policier qui peut tracasser la population.
D'accord.
Donc cette réforme, nous la voulons, mais elle doit suivre des procédures et respecter tous les paramètres qui mettent les gens à l'aise et capables de rendre ce qu'on attend d'eux comme mission ou comme travail.
Oui, Benoît Cambéré, je rappelle que vous êtes